Cours de philosophie de la matière par le père Philippe le 15 mars à Rimaud.
Nous allons continuer cette réflexion sur le chapitre 8, le livre 8. Bien comprendre le lien et la différence entre les deux. On le verra progressivement. Le lien entre le livre 7 et le livre 8. L'éternité du mouvement. Alors, les arguments pour le mouvement est éternel. Il nous faut commencer en partant des définitions posées dans notre physique. Nous disons, on le sait, que le mouvement est l'entéléchie du mobile en tant que mobile. Il est donc nécessaire qu'existent premièrement les choses qui ont la puissance de mouvoir selon chaque mouvement. Toujours. Dans le mouvement, la puissance est antérieure à l'acte. Première affirmation. D'ailleurs, en laissant de côté la définition du mouvement, tout le monde conviendra que nécessairement n'est mu que ce qui a la puissance d'être mu selon chaque mouvement. Par exemple, l'altérable seul est altéré, le modifiable quant au lieu seul est transporté. Ainsi, avant le fait d'être brûlé, il faut un combustible et avant le fait de brûler, un comburant. Donc, il faut nécessairement aussi que ces choses, ou bien aient été engendrées une fois, n'existant pas auparavant, ou qu'elles soient éternelles. Si donc, chaque chose mobile était engendrée, nécessairement avant le changement, le mouvement considéré, il faudrait s'en produire un autre, celui où serait engendré ce qu'est la puissance d'être mu et de mouvoir. Mais si l'on suppose que les êtres ont préexisté éternellement, sans que le mouvement soit, l'absurdité apparaît rien qu'à considérer l'hypothèse. Elle apparaît toutefois plus inévitable encore, pour peu qu'on avance plus loin. En effet. Oui, les raisonnements d'Aristote sont quand même très curieux, hein, par mode hypothétique. Donc en étant critique. Je crois que c'est ça qui est important à voir. On l'a vu pour le chapitre précédent, on le revoit ici. Alors ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre la convergence de ces deux chapitres, qui a posé des tas de questions, vous comprenez, aux historiens. Je comprends très bien, du reste. C'est des chapitres tout à fait différents, du reste. Alors, je crois que ce que je vous disais la fois dernière pour le chapitre 7 reste vrai. Ici, pour le chapitre 8, il faut essayer de comprendre le pourquoi de cette critique. Qui est moins vrai que le précédent. Hein. Parce que le mouvement n'est pas éternel. Alors, continuons ici, n'est-ce pas ? En effet, si parmi les choses, les unes sont mobiles, les autres motrices, et si à un moment, L'une devient moteur premier, l'autre premier mobile, premier dans le temps. Et qu'à un autre moment, il n'y ait rien de tout cela, mais le repos. Il faut donc qu'il y ait un changement intérieur. C'est évident. En effet, il y avait une cause. En effet, il y avait une cause à ce repos, car la mise en repos et privation du mouvement, par suite, avant le premier changement, il y avait un changement antécédent. Très juste. Il n'y a pas de premier dans le mouvement. On peut remonter à l'infini dans l'ordre du mouvement. Comme ça, vous le comprenez quand même, hein. C'est assez simple comme petit raisonnement. Deuxième argument, ça c'est la glose marginale. En effet, certaines choses meuvent d'une seule façon. Certaines donnent les mouvements contraires. Par exemple, le feu échauffe et ne refroidit pas, tandis qu'il y a, semble-t-il, une science unique pour les contraires. C'est très drôle comme exemple, hein. Le feu et la science. Or, le premier cas semble être le même, car le froid chauffe quand on le considère sous un certain biais, à savoir quand il se retire. De même que le savant, comme tel, aussi se trompe, usant à contresens de la science. Mais, du moins, tout ce qui est capable d'agir, de pâtir, de mouvoir, d'être mu, n'en est pas capable dans toutes les conditions, mais seulement dans certaines conditions, notamment de proximité réciproque. Par suite, quand il y a rapprochement, l'un meut et les autres sont mus. Et cela quand elles sont en tel état que l'une soit motrice, l'autre mobile. Et certes, si le mouvement ne s'est pas toujours produit, c'est évidemment qu'elle n'était pas en état d'être capable, l'une d'être mue, l'autre de mouvoir. Mais il fallait que l'une d'elles changeât. C'est là, en effet, une nécessité pour les relatifs. Par exemple, si ce qui n'était pas le double est le double maintenant, c'est que l'un des termes a changé. Et si les deux ne l'ont pas, c'est que l'un des termes a changé. Si les deux ne l'ont fait, il y aura donc un changement antérieur au premier. C'est bien un raisonnement à partir de notre raisonnement. C'est pas un second argument, c'est plutôt une espèce de... Et en plus, on dirait, oui, et de plus. Troisième argument. Ça, c'est toujours la division marginale. En outre, comment existeront l'antécédent, l'antérieur et le postérieur s'il n'y avait pas de temps, s'il n'y a pas de temps, et le temps s'il n'y a pas de mouvement? S'il est vrai que le temps est bien le nombre du mouvement ou un certain mouvement, du moment que le temps est toujours, nécessairement le mouvement doit également être éternel. Alors qu'est-ce qui est premier? Est-ce que c'est le temps qui est éternel ou c'est le mouvement qui est éternel? Vous voyez ce raisonnement là, hein? C'est très drôle ça. Maintenant, sur le temps, tous, sauf un seul, semblent avoir pensé de même. Il le déclare non engendré. Voilà. Vous voyez, c'est plus facile de montrer que le temps est éternel que de montrer que le mouvement est éternel. Alors, on va le montrer par le temps. Il le déclare non engendré. Et par là, Démocrite montre qu'il est impossible que tout soit engendré, attendu que le temps est inengendré. il est engendré avec le ciel. Et le ciel a été engendré. Bon, c'est le timésol. Si donc, il est impossible que le temps existe et soit conçu sans l'instant. Et si l'instant est une sorte de moyen terme, étant à la fois commencement et fin, commencement du temps futur et fin du temps passé, alors nécessairement le temps existe toujours. Métaxus, très intéressant. L'instant présent montre que le temps est éternel. Car l'extrémité du dernier temps, saisi, sera dans un instant. Vu que dans le temps, on ne peut rien saisir que l'instant. Par suite, puisque l'instant est commencement et fin, nécessairement de part et d'autre de lui-même, il y aura du temps. Maintenant, s'il en est ainsi pour le temps, il en est de même encore et nécessairement pour le mouvement, puisque le temps est une affection du mouvement. Ça vous convainc, ça? Est-ce que dans cet argument, il n'y a pas un certain reste d'ontologisme? Vous ne pouvez pas concevoir l'instant sans que l'instant soit terme d'un mouvement antérieur et principe d'un mouvement supérieur. Donc, puisque l'instant existe, il est éternel.
Comment je peux parler d'un temps éternel quand je n'ai pas l'expérience?
Ah, ben, pas l'expérience, c'est évident. Mais c'est en raison même du temps que vous voyez qu'il est éternel. C'est pour ça que je dis qu'il y a un petit reste ontologisme là. Parce que le temps, il existe grâce à mon intelligence. C'est mon intelligence qui fait ça, qui fait un ordre. C'est là que je dis qu'il y a un certain ontologisme.
Est-ce qu'on pourrait dire que ce serait un peu comme l'épreuve de l'existence de Dieu, qu'elle serait vraie au point de vue spéculatif, mais qu'elle ne permet pas de prendre, de poser l'existence de Dieu?
Non, c'est pas tout à fait la même chose. C'est montrer que ce serait la critique. Vous voyez ? La critique de Kant sur l'épreuve d'existence de Dieu de Descartes, c'est de montrer que ces preuves impliquent l'ontologisme. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'analogue ici par rapport au mouvement et par rapport au temps? Parce qu'on montre que la notion de mouvement comme telle implique l'éternité et que la notion de temps comme telle implique l'éternité. Parce qu'Aristote fait hein, par mode d'impossibilité. Donc, puisque c'est par mode d'impossibilité, c'est bien la notion même de mouvement et c'est la notion même de temps. Disent que ça, c'est du premier Aristote. l'intelligibilité et de l'exister. Mais l'ontologie, vous voyez bien ce que c'est, hein, pensez toujours à ça. L'ontologisme, on passe de l'intelligible à la réalité. C'est ça l'ontologisme. Hein. C'est la notion de temps. Dans cette notion, n'implique ni limite, ni commencement, ni fin. C'est possible, comme notion. Ça ne veut pas dire qu'il existe. Je sais bien qu'il fait ça par rapport à l'instant. C'est ça l'astuce. Or, l'instant existe. Donc il dira, c'est plus long de la vie. Et le mouvement existe en fonction de son sujet. Donc c'est plus l'ontologisme. Alors qu'est-ce qu'il faudrait dire ? Il faut dire, le mouvement comme tel peut ne pas avoir de commencement et de terme. Le temps comme thème peut ne pas avoir de commencement et de terme. Mais pas plus, je ne peux pas dire plus. C'est un semi-ontologisme. On va continuer. Ah, c'est très curieux, ces passages-là. Ça, t'as pas, t'es pas d'accord. Hein. Pour Saint Thomas, on ne peut pas prouver que le monde soit dans le temps. Et on ne peut pas prouver que le monde soit éternel. Question de foi. Pour Aristote, le monde est éternel et le temps est éternel. Le temps étant éternel, le monde est éternel. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas été créé. Hein. Attention. Deux choses différentes.
Comment concilier les deux ?
Ben oui, il peut être créé et être créé éternellement. Il n'y a pas d'impossibilité, ça. Coextensible à l'éternité. De même, celle qui admet... Attendez, raisonnement sur l'indestructibilité du mouvement. De même que pour la génération du mouvement, on en venait à un changement antérieur au premier. De même ici, il y aura un changement postérieur au dernier. En effet, le même être ne cesse pas en même temps d'être mu et d'être mobile. Par exemple, le brûlé et le combustible, car la chose peut être combustible en dehors du mouvement qu'elle est brûlée. Pas davantage d'être motrice et mouvante. De même, ce qui est susceptible d'être détruit devra être détruit lorsqu'il aura été détruit. Et ce qui est capable de le détruire devra être à son tour détruit ultérieurement. Car la destruction est un changement. Mais si c'est impossible, on voit que le mouvement est éternel. Non pas toutefois en étant et en n'étant pas alternativement, car une telle conception ressemble plutôt à une fiction. De même, celle qui admet que c'est la nature qui le veut ainsi, et qu'il faut y voir un principe, ce que précisément semble dire Empédocle, selon qui le pouvoir et l'action motrice que possède alternativement pendant le temps intermédiaire. Peut-être aussi ce pour qui il n'y a qu'un principe, comme Anaxagore, parlerait-il de même. Mais selon nous, il n'y a rien de désordonné dans les choses qui sont par nature et conformes à la nature, car la nature est en toute cause d'ordre. Or, l'infini n'a aucune proportion avec l'infini, et tout ordre est proportion. Mais qu'il y ait repos pendant un temps indéfini, puis mouvement à un moment quelconque, et qu'indifféremment il se produise maintenant plutôt qu'auparavant, qu'il n'y ait non plus aucun ordre, ce n'est plus là un ouvrage de la nature. En effet, ou bien ce qui est naturel possède sa nature absolument, et non tantôt comme ceci, tantôt comme cela. Par exemple, le feu est par nature transporté en haut, et non tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ou bien ce qui n'existe pas d'une façon simple renferme quelques proportions. C'est pourquoi il faudra mieux, avec Empédocle ou quiconque a soutenu la même thèse, dire que le tout est alternativement en repos, puis en mouvement, car voilà déjà un certain ordre. Mais celui qui allègue de pareilles alternances ne doit pas seulement les affirmer, mais en dire la cause. Ne rien supposer, ni admettre de propositions sans raison, mais en appeler l'induction ou la démonstration. Ces alternatives supposées ne sont pas en effet des causes, et ce n'est pas là, c'est-à-dire dans cette régularité alternante, que réside l'essence de l'amitié et de la haine. Mais pour l'une, c'est le fait de rassembler, pour l'autre de séparer. Si l'on définit en outre cette alternance comme limitée, il faut dire en quel cas il en est ainsi. Par exemple, il y a quelque chose qui rassemble les hommes, l'amitié, et les ennemis se fuient mutuellement. C'est là en effet ce qui est supposé se passer aussi dans le tout, parce qu'on le voit ainsi dans certains cas. Mais il reste encore à expliquer l'égalité de durée des alternances. Et dans la discussion avec un pédocle, c'est pas la peine de s'arrêter à ça. En général, admettre comme un principe d'explication suffisant le fait que cela est et se produit toujours ainsi, ce n'est pas faire une supposition correcte. C'est simple, c'est cependant à cela que Démocrite ramène les causes naturelles. Parce que cela s'est passé ainsi auparavant. Mais il ne croit pas devoir chercher le principe de ce toujours. Il a raison dans tel ou tel cas, mais non s'il s'agit de tous. Et en effet, le triangle a toujours ses trois angles égaux, à tous trois. Et cependant, il y a une autre cause d'une telle éternité. Par contre, les principes n'ont pas d'autre cause qu'eux-mêmes de leur éternité. En voilà assez pour montrer qu'il n'y a eu aucun temps sans mouvement et qu'il n'y aura aucun temps sans mouvement. Vous voyez, ça c'est une question distincte qui voulait séparer le temps et le mouvement. Alors là c'est beaucoup plus facile de montrer que en effet le temps est toujours lié au devenir et le devenir est toujours lié au temps. C'est réciproque. croire, et ça c'est très important, parce que vous allez voir que la preuve du livre 8 repose là-dessus. Alors, si vous dites que le temps n'est pas éternel, et que le mouvement n'est pas éternel, la preuve du livre 8 disparaît. Alors, trois objections possibles. Vous n'êtes pas trop fatigué, c'est pas très drôle. On peut sauter ça tout de suite, si vous voulez, et voir le raisonnement lui-même à la fin du premier moteur, c'est ça qui est intéressant. C'est ces trois objections. C'est intéressant pour comprendre le point de vue d'Aristote, c'est sûr. On va en voir une, si vous voulez. On va pas voir les trois objections possibles. Parce que ça permet de mieux saisir. C'est ça qui est intéressant, venez. Pour ceux qui s'intéressent à la pensée d'Aristote, ce livre 7 et ce livre 8 sont très intéressants. C'est un peu comme, en métaphysique, les livres mu et nu. Ce sont des livres critiques. C'est très curieux, du reste. De voir qu'en physique, vous avez deux livres critiques, et en métaphysique, vous avez deux livres critiques. Ce qui montre combien, pour la pensée d'Aristote, l'aspect critique est coextensible à l'aspect philosophique. Alors, je continue, si vous voulez, ce petit chapitre 2. Il est facile de résoudre les objections à cette thèse. Donc il reconnaît que c'est quand même une thèse. Ça c'est la traduction. Voici les principales de celles qui donneraient à penser que le mouvement a existé un jour, n'étant pas du tout auparavant. D'abord, aucun changement n'est éternel. En effet, tout changement va par nature d'un terme à un autre, par suite nécessairement. Pour tout changement, les contraires dans lesquels il se produit sont des limites. Et rien ne se meut à l'infini. La constatation. Constatation. Vous n'avez jamais vu un mouvement éternel. Hein? Tout mouvement implique deux termes contraires. Le premier chapitre des physiques. Est-ce que vous comprenez, hein? Aristote, au début de la physique, veut établir qu'il y a une philosophie de la nature contre le pandareï d'Héraclite, contre le pandareï de Platon. Pour Héraclite et pour Platon, il n'y a pas de philosophie de la nature. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'intelligibilité du monde physique qui est corruptible. Et si tout coule tout le temps, il n'y a rien de stable. S'il n'y a rien de stable, il n'y a pas d'intelligibilité scientifique et philosophique. Alors, vous comprenez cette chose très curieuse. Si le mouvement est infini, est-ce qu'on ne va pas détruire la possibilité d'une philosophie de la nature ? Voici la grosse objection que je ferai. Aristote, il doit nous écouter quand même. entre deux contraires. C'est ce qu'il a dit au point de départ. Et c'est parce que le mouvement est entre deux contraires que le mouvement a une certaine intelligibilité. En outre, nous voyons qu'une chose qui n'est pas mue, qui n'a en soi aucun mouvement, peut être mue. Par exemple, chez les êtres inanimés, dans les parties ou le tout, bien que n'étant pas mus mais immobiles, sont pourtant mis en mouvement à un certain moment. Or, il faudrait dire ou que le mouvement est éternel ou qu'il n'est jamais. S'il n'était pas vrai que n'étant pas, il s'engendre. Enfin, ceci dira-t-on est encore plus net chez les êtres animés, donc chez les vivants. Sans qu'à tel ou tel moment il y ait en nous aucun mouvement, et bien que nous soyons tranquilles, cependant nous venons à nous mouvoir, et se produit en nous, provenant de nous-mêmes, un commencement de mouvement. Quand même rien ne mouvrait de l'extérieur, l'expérience ne nous montre pas pareille chose pour les êtres inanimés. Et s'ils sont mus, c'est toujours par quelque chose d'autre et d'extérieur. L'animal, au contraire, se meut lui-même. Par suite, supposer que le repos soit total à un moment, c'est dans l'immobile que le mouvement doit se produire, et venant de l'intérieur, non de l'extérieur. Or, si cela est possible dans l'animal, qu'est-ce qui empêche que la même chose arrive aussi pour le tout, puisque cela se produit dans le microcosme, de même aussi dans le macrocosme, et si dans le cosmos, de même dans l'infini, à supposer que l'infini puisse se mouvoir et être en repos dans son entier. Le premier des arguments qui prétend que le mouvement qui va vers les opposés ne peut être éternellement identique, ni numériquement, est correct. Sans doute, cela est-il nécessaire si l'on prouve qu'il n'est pas possible que le mouvement d'une chose identique et une soit éternellement un et identique. Par exemple, le son d'une corde unique est-il un et identique, ou toujours autre, la corde et le son. La corde et son mouvement restant les mêmes. Mais pourtant, quoi qu'il en soit, rien n'empêche qu'un mouvement soit identique s'il est continu et éternel. On le verra mieux d'après la suite. Quant à ce fait qu'un corps qui n'était pas mu soit mu, il n'entraîne aucune absurdité pour notre théorie. Du moment que le moteur externe est tantôt présent, tantôt non. Reste, il est vrai, à se poser cette question, comment la même chose, sous l'action d'un même moteur, est-elle tantôt mue, tantôt non. La difficulté que l'on pose ainsi, c'est de savoir pourquoi certaines choses ne sont pas toujours en repos et certaines autres toujours en mouvement. Aristote montre qu'il s'agit du tout et non pas de telle partie. Et c'est par là qu'il sauve, même si le mouvement est éternel, c'est par là qu'il sauve une philosophie de la nature. Parce que la philosophie de la nature, c'est par rapport à telle nature particulière qui, elles, sont limitées dans leur mouvement. Donc c'est par rapport au tout.
On va prendre tout de suite le point de vue.
Alors, posez-vous la question, est-ce un principe, est-ce une loi? Vous voyez que c'est différent, hein, j'espère que vous voyez bien la différence. Une loi, c'est une relation. Un principe, c'est de poser quelque chose de premier. Oh, tout être mu, ému par un autre, je crois que c'est une loi. La loi fondamentale et première de toute la philosophie de la nature. Oui. L'avion, tu as vu, hein, et on la retrouve ici, c'est intéressant, parce qu'Aristote comprend que c'est cela qui est l'âme de toute la démonstration. Tout être mu par un autre. Or, le mouvement est éternel, donc il faut un premier être éternel. Oui. Ça, c'est la seconde raisonnement. Si j'ai ce principe-là, cette loi, précédemment, nous avions ce qui est mu. Ce qui est mu est éternel. Le mouvement comme tel est éternel. Là, vous n'avez qu'à rassembler ces deux principes. Vous avez la conclusion. Et vous posez un être. le livre 7 reste beaucoup plus vrai que le livre 8. Le livre 7, au point de vue critique, reste parfaitement vrai. Le monde physique, tel que nous qui se présente à nous, ne peut pas être premier dans l'ordre de l'être. Alors, voyons ça. Maintenant, parmi les choses mouvantes et les choses mues, les unes le sont par accident, les autres en soi. Par accident, comme celles qui appartiennent à des choses qui meuvent ou sont mues, et celles qui sont relatives à une partie. Oui, celles qui appartiennent à des choses qui meuvent ou sont mues, et celles qui sont relatives à une partie. En soi, comme toutes celles qui n'appartiennent pas au mouvement, ni au mu, et qui ne sont pas mouvantes ou mues par le fait d'en être une partie. Parmi celles qui le sont en soi, les unes le sont par leur propre action, les autres par l'action d'une autre chose. Les unes le sont par nature, les autres par violence, ou contrairement à la nature. Vous voyez, ce raisonnement est un raisonnement par mode de division. Ce qui est le raisonnement propre de Platon. Vous trouvez beaucoup moins ce raisonnement dans la métaphysique ou dans le De Anima. Beaucoup moins. C'est ce qui veut dire que ces parties de la physique sont très anciennes. C'est un Aristote encore proche de Platon. Du reste, c'est juste ce que je crois. En effet, l'être qui est mu soi-même, sous sa propre action, est mu par nature. Ainsi, chaque animal, l'animal en effet est mu soi-même par sa propre action. Et tout ce qui est en soi le principe du mouvement, nous le disons mu par nature. C'est pourquoi l'animal se meut soi-même par nature, dans sa totalité. Le corps peut être mu. Ou conformément ou contrairement à la nature. En effet, cela varie avec la nature des mouvements dont il peut être mu et avec l'élément qui la constitue. Parmi les choses qui sont mues sous l'action d'autres choses, les unes sont mues par nature, les autres contrairement à la nature. Ainsi, les choses terreuses vers le haut et le feu vers le bas. En outre, souvent aussi les parties des animaux sont mues contrairement à la nature, c'est-à-dire ce qui est naturellement leur position et le mode de leur mouvement. Alors, on va arriver juste, c'est surtout dans les choses mues, contrairement à la nature, qu'apparaît la détermination du mouvement par quelque chose. Alors, ce qui est intéressant dans cette petite division, vous voyez, Aristote, il n'est pas bête. Il sait que c'est une chose difficile. Alors, il énumère tous les cas possibles et il prend le cas le plus évident. C'est bon.
cours de philosophie de la matière par le père Philippe, le 15 mars à Rimaud.
On va continuer de lire ces passages d'Aristote. Oui, je suis obligé d'aller assez vite, m'arrêter au point un peu névralgique pour qu'on ait au moins le sens de la structure de ces livres 7 et 8. Ensuite, je prendrai dans Saint Thomas contre Gentilès. Pour que vous voyez bien combien ces livres 7 et 8 ont été pour le contrat Gentilès quelque chose de tout à fait important. C'est surtout dans les choses, donc, je relis, oui, pour vous montrer ce souci d'Aristote maliste. C'est surtout dans les choses mues, contrairement à la nature, qu'apparaît la détermination du mouvement par quelque chose. Parce qu'alors, il est manifestement dû à une action étrangère. C'est bien évident. Et après ces mouvements contre nature, c'est encore évident dans les mouvements par nature. Vous voyez, cette manière de raisonner, c'est ça qui est intéressant à voir, qui est assez rhétorique. Pour le maliste, puis après. Et après ces mouvements contre nature, c'est encore évident dans les mouvements par nature, chez les êtres qui se meuvent eux-mêmes, comme les animaux. En effet, ce qui est obscur ici, ce n'est pas qu'il y ait mouvement par quelque chose, mais c'est la manière dont il faut distinguer, dans ce cas, le moteur et le mu. En effet, de la même façon, semble-t-il, que pour les bateaux et pour les choses qui n'ont pas une constitution naturelle, donc les œuvres d'art, il y a pour les animaux aussi distinction de moteur et de mu. Et c'est en ce sens que le tout de l'animal se meut soi-même. Mais là où la difficulté est la plus grande, c'est à propos de la dernière partie de la substitution parmi les choses qui sont mues par autre chose. Les unes, avons-nous dit, sont mues contrairement à la nature. Il reste à mettre en face les autres, celles qui sont mues par nature. Celles qui sont mues contrairement à elles par la nature, c'est bien évident qu'il faut un agent extrinsèque à elles. Puisque justement elles sont mues contrairement à la nature. Tandis que celles qui sont mues par nature, on pourrait dire, mais la nature suffit. Puisque la nature est un principe de mouvement. C'est ce que nous avions vu déjà la dernière fois, si vous vous souvenez. Aristote ne l'avait pas explicité, mais je vous avais dit que ceci doit toujours être mis en parallèle. Tout ce qui est mu par nature doit être mis la nature. Et un principe immanent de mouvement. Et cette loi présuppose ce principe. Mais vous voyez, la nature est un principe immanent du mouvement. Alors à ce moment-là, on dirait, mais la nature suffit pour expliquer le mouvement, puisqu'elle est un principe immanent. Alors comment se fait-il qu'on dit tout ce qui est mu par un autre? Tout ce qui est mu par nature est mu par un autre. Tout ce qui est mu violemment ému par un autre, c'est bien évident, parce que la nature n'explique pas alors son mouvement. Mais si c'est un mouvement naturel, comment pouvons-nous dire que tout ce qui est ému par un autre, alors que nature est en principe immanent de mouvement? Mais c'est là, Aristote souligne très nettement la difficulté. Alors continuons de regarder ça avec attention. Parmi les choses qui sont mues par autre chose, les unes, avons-nous dit, sont mues contrairement à la nature. Il reste à mettre en face les autres, celles qui sont mues par nature. C'est pour celles-là qu'il est difficile de savoir par l'action de quoi elles sont mues. Ainsi, pour les légers et les graves. Ces choses, en effet, sont mues par violence vers les lieux opposés, mais par nature vers leur lieu propre, le léger vers le haut, le lourd vers le bas. Or, sous l'action de quoi? Voilà qui n'est plus évident, comme ce l'était dans le cas du mouvement contre nature. Ça, c'est très facile à comprendre. Vous voyez, mais là, ça touche vraiment cet aspect qui n'est pas commode à saisir. Comment se fait-il que tout mouvement naturel est mu par un autre? Que tout ce qui est mu d'un mouvement naturel est mu par un autre? Alors, on va expliquer. Dire en effet que ces choses se meuvent elles-mêmes par leur propre action est impossible, car c'est là le propre de l'animal et des êtres animés. Elles pourraient en outre s'arrêter d'elle-même. Je veux dire que si une chose est cause pour elle-même du fait de marcher, elle est aussi du fait de ne pas marcher. Par suite, s'il est au pouvoir du feu lui-même de se porter en haut, il sera évidemment en son pouvoir aussi de se porter en bas. Feu, arrête-toi et porte-toi en bas. Mais il est irrationnel que si vraiment ces choses se meuvent elles-mêmes, il ne leur appartienne de se mouvoir que d'un seul mouvement. De plus, comment ce qui est continu et naturellement homogène peut-il se mouvoir soi-même? En tant que ce n'est pas par contact qu'il est un et continu. Dans cette mesure, il est impassible. Mais c'est en tant qu'il y a eu séparation que, alors, de nature, une partie est agent et l'autre patient. Donc, aucune de ces choses ne se meut soi-même, car elles sont homogènes. Ni nul autre continue. Mais il est nécessaire de distinguer en chacune le moteur en face du mu, comme on le distingue, oui, comme on le voit pour les choses inanimées quand un être animé l'émeut. Voyez, ce qu'Aristote veut essayer de comprendre, c'est comment un élément se meut. Comment se fait-il que le feu monte vers le haut et que la terre descende vers le bas? Mouvement naturel. Oui. Et ceci, c'est pour nous faire comprendre la loi, tout ce qui est mu par un autre. Mais c'est pas si commode que ça, hein. Or, de fait, toute la physique d'Aristote, toute la physique d'Aristote repose sur cette affirmation, la nature est un principe immanent de mouvement, et tout être mu par un autre. tout est là. Alors comment lier les deux? Vous n'avez jamais pensé à ça? Alors, vous avez juste pensé maintenant. La nature est un principe immanent de mouvement. Le feu monte vers le haut. Et le feu n'est pas mu par un autre. Il est mu par quoi?
On dit toujours que c'est sa nature.
Quoi?
On dit toujours que c'est sa nature d'être mu.
Oui, oui, mais alors, il n'est pas mu par un autre.
Or, il est mu. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la nature, en tant qu'elle meut, elle est autre que...
Ah, elle est autre que le feu. Que...
Oui.
Et le feu, il est quoi? Le feu, par nature, est feu.
Il est matière?
Ah, non. C'est pas la matière. Il y a distingué alors dans un corps simple, forme et matière, mais non, la forme détermine le feu. Vous voyez, vous touchez là une chose qu'au fond on ne pense pas beaucoup. Et on répète Aristote. C'est ça qui est intéressant ici. Il y a une critique, une autocritique, vous voyez. Une autocritique de montrer que. Oui, on doit affirmer le principe, on doit affirmer la loi. Quand je vous dis ça, je vous donne la solution. Nous allons voir, et je vous donne la solution. C'est pour ça que je vous dis, ne disons pas que tout ce qui est mu par un autre est un principe. Disons que c'est une loi. Quelle différence y a-t-il entre nature et loi ? C'est très important si on veut comparer la philosophie et la science. Les sciences nous donnent des lois et la philosophie nous donne des principes. Et la philosophie, au terme, donne des lois. Les lois sont au niveau du pos. Et le principe est au niveau de l'analyse. Vous êtes là au niveau du pos. Du comment. C'est pas éternel, pardon. C'est la nature, ça. Ce qu'est la réalité naturelle, elle n'a plus qu'une nature. Je continue. C'est un fait, cependant, que même ces choses mues par nature sont toujours mues par quelque chose. On le comprendrait bien en distinguant les causes du mouvement. Ce que nous venons de dire peut également être appliqué au moteur. Quand vous êtes en face du pos, toutes les causalités jouent. Quand vous êtes en face de l'analyse, vous ne regardez qu'une seule causalité. Les lois ne distinguent jamais les diverses causalités, les diverses causes. On regarde le pos, la réalité telle qu'elle existe, telle qu'elle existe concrètement, tout ce qui est mu par un autre. Et l'autre peut être la fin. Qu'est-ce qui attire le feu? Qui fait que le feu est en mouvement? Et vu, c'est que le feu, la nature du feu doit être localisée. Et la nature de la terre doit être localisée. Oui. Alors, ce que nous venons de dire peut également être appliqué au moteur. Les uns sont des moteurs contre nature. Le levier, par exemple, n'est pas un moteur naturel du loup. Que vous soulevez le lourd. Donc c'est contre nature du lourd. C'est pour ça qu'il résiste. Et qu'il met tout son poids à résister. Parce qu'il est lourd. D'autre part, sont des moteurs naturels. Par exemple, le chaud en acte. et moteur du chaud en puissance. Et pareillement, pour tous ces cas analogues, c'est de la même façon qu'est mobile par nature ce qui est en puissance de telle qualité, de telle quantité, de tel lieu. Lorsque la chose a un tel principe, en soi, et non par accident, une même chose pourrait être en effet et qualité et quantité, mais ce serait par accident de l'une à l'autre, non par appartenance essentielle. Donc, le feu et la terre sont mus sous l'action de quelque chose, tantôt par violence, quand c'est contrairement à la nature, tantôt par nature, quand étant en puissance, ils sont mus vers leur acte propre. Mais comme en puissance, sentant de plusieurs sens, on voit mal pour cela par quelle action ces choses-là sont mues, comme le feu en haut, la terre en bas. Ce sont deux puissances différentes que l'état du savant peut apprendre et celui du savant qui possède déjà sa science mais n'en fait pas l'objet actuel de son étude. Alors ça, c'est les degrés différents de puissance qu'Aristote ne cesse de reprendre et qu'il a pris du reste dans le De Anima. Ce que les scolastiques appelleront être en acte premier et être en acte second. En acte premier, c'est avoir la capacité d'agir. Vous êtes assis, vous pouvez vous lever. Vous vous levez en acte. L'architecte est capable de construire. Acte premier. Et il construit. Acte second. Vous voyez ? Distingue les deux aspects. C'est intéressant parce que la capacité d'agir donne une qualité intrinsèque et immanente. Tandis que le mouvement en acte présuppose l'attraction de la finalité. Ou le petit coup de chignode. La boule du billard est capable de bouger. Elle est bien ronde, sur un terrain plat, très plat, sans aucune bosse. Donc elle est capable de bouger. Pour qu'elle bouge, il faut le coup de chignode. Vous voyez ? Or, c'est toujours quand sont ensemble l'actif et le passif que ce qui est en puissance passe à l'acte. C'est toujours quand sont ensemble, donc se tiennent en contact, l'actif et le passif, que ce qui est en puissance passe à l'acte. Exemple, celui qui apprend passe de la puissance à un état différent de puissance. Car celui qui possède une science, mais sans en faire l'objet actuel de son étude, est savant en puissance, d'une certaine façon. Non pourtant comme avant d'apprendre. Et comme il est dans cet état, il passe à l'acte et exerce son savoir, à condition que rien ne l'empêche. Sinon, il serait dans un état qui contredirait sa capacité, autrement dit, l'ignorance. Tout ça a été déjà dit avant. Et Aristote reprend tout ça pour essayer de comprendre comment il n'y a pas de contradiction dans ces deux affirmations. La nature, principe immanent de ce qui est mu. Tout ce qui est mu par un autre. Alors, une fois qu'on aura bien vu ça, vous verrez bien que l'un est une loi et l'autre un principe. Et ça, alors, c'est très intéressant. De même pour le lourd et le léger. En effet, le léger est engendré à partir du lourd. insulaire à partir de l'eau. Ce qui est le premier degré de la puissance, le voici déjà léger. Et il passera à l'acte directement, pourvu que rien ne s'y oppose. Or, l'acte du léger, c'est le fait d'être en un certain lieu, à savoir en haut. Il est empêché quand il est dans un lieu contraire. Il en est de même pour la quantité et la qualité. Mais, dira-t-on, ce que nous cherchons, c'est par quelle action peuvent bien être mus vers leur lieu propre, le léger et le lourd. Or, la cause en est que leur nature le veut ainsi, et que c'est là l'essence du léger et du lourd, déterminée pour l'un par le haut, pour l'autre par le bas. Mais la puissance du léger et du lourd se prend en plusieurs acceptions, comme il a été dit. En effet, quand c'est de l'eau qui existe, en un sens, elle est bien en puissance du léger. Est-ce de l'air? Il est encore en puissance, puisqu'il peut être empêché d'être en haut. Mais quand l'empêchement est enlevé, il passe à l'acte et monte plus haut. Or, c'est de la même façon que la qualité change et passe à l'acte, puisque la faculté savante passe à l'acte immédiatement, sauf empêchement. De même, la quantité s'étend, sauf empêchement. C'est très intéressant, les analogies. Hein. Ça explique beaucoup pour les animaux. Vous voyez, ça qui est intéressant. Ça explique, si vous voulez, tout ce qu'Aristote dit et aime de dire entre ce que représente l'appétit naturel et la dynamis, la puissance vitale. Alors, il faut faire l'analogie entre les deux. Pourquoi? Parce que tous les deux ont la capacité. Qu'est-ce qui les unit? Qu'est-ce qui permet de faire cette analogie? C'est que tous les deux ont la capacité de mouvoir, d'être mu. En acte premier. Qui a mu l'obstacle, qui fait empêchement, en un sens est cause motrice, en un autre non. Si par exemple, on retire par en dessous la colonne de soutien, ou si l'on enlève la pierre de sur une outre plongée dans l'eau, on ne me, en effet, que par accident. De même que la balle renvoyée n'est pas mue par le mur, mais par celui qui l'a lancée. Vous lancez une balle sur le mur, la balle vous revient. Donc le mur a donné un coup de chiquenaude. C'est très joli comme exemple. Le mur est un obstacle à empêcher la balle d'aller plus loin. Donc la balle revient. Mais pourquoi la balle revient? C'est grâce à celui qui l'a envoyé, qui l'a mu. C'est pas le mur qui l'a mu, qui l'a mu. Alors, conclusion. Il est donc clair, vous avez tous compris, il est donc clair, tout à fait clair, qu'aucune de ces choses ne se meut soi-même. Disons cependant que si elles ont en elles un principe de mouvement, c'est un principe, non de motricité, ni d'action, mais de passivité. tout Pascal. Donc, si toutes les choses mues le sont, ou par nature, ou contre nature et violemment, si d'autre part, les choses mues violemment et contre nature sont mues par quelque chose qui leur est étranger, et si à leur tour, les choses mues par nature sont mues les unes par elles-mêmes, étant mues par quelque chose d'intérieur, l'âme, les autres non par elles-mêmes, ainsi les choses légères et lourdes, puisqu'elles se meuvent, ou essentiellement en vertu de la cause génératrice et efficiente, de leur légèreté et de leur lourdeur, ou accidentellement en vertu de ce qui les délivre de l'obstacle d'empêchement. Dès lors, on peut dire que tout ce qui est mu par quelque chose. Hein? Vous avez bien vu, j'espère.
Est-ce qu'on doit en conclure que le mouvement naturel a pour seule cause la cause finale?
Qu'est-ce qu'il y a?
Est-ce qu'on doit en conclure que le mouvement naturel a pour seule cause la cause finale?
Et sa cause efficiente. Là, il parle de la cause efficiente. L'engendrant. L'engendrant de la légèreté. C'est quelque chose. Et la cause finale aussi. Tout ce qui est mu par un autre, c'est absolument universel. Ah, c'est de la vautrée pour les mouvements contre nature, pour sur la nature. Et pour bien comprendre ça, pour ne pas l'opposer et faire une opposition avec le principe naturel, il faut distinguer, bien distinguer, la nature et principe immanent, acte. C'est pour ça qu'il dit la nature, principe immanent, est comme un principe passif, une capacité. C'est très très intéressant ça. Hein? Parce que dans aucun autre endroit de la physique, Aristote l'explique aussi nettement. On est vraiment dans une position critique, vous voyez, qui compare lui-même ces deux aspects. C'est intéressant comme autocritique. Il ne le fait pas d'habitude. Et là, c'est très intéressant pour bien comprendre ce que c'est que la nature. Comme principe immanent. Alors, vous n'êtes pas trop fatigué. Dans le fond de la classe, ça suit. Je veux dire, miserior sur perturba. C'est difficile. Venez, il faut déjà être très familier avec Aristote pour comprendre ça. C'est vrai, il faut avoir compris ce que c'est que la nature, comprendre ce que représente la différence de l'analyse et du point de vue de la composition du pos, pour comprendre ça. Toutes les lois sont au niveau du comment. Puisque le propre des lois, vous comprenez, ça c'est intéressant de façon universelle. Le propre de la loi, c'est de toujours saisir la relation entre si A existe, B existe. A, si l'être est mu, il y a un autre. Et si A existe, B est mu. Donc vous voyez, des deux côtés, je suis devant une réalité existante. Et je vois le rapport entre les deux. Tandis qu'au contraire, quand j'analyse, je ne vois pas la réalité existante, je prends au contraire un aspect sous l'interrogation. Qu'est-ce ? Qu'est-ce cette réalité mue ? Je dis, il y a un principe du mouvement. C'est ça l'intérêt, vous voyez ? Parce que si vous êtes en comparaison de la philosophie et de la science, vous verrez que la science reste au niveau des lois. C'est la seule chose qui l'intéresse. Tandis que la philosophie analyse. Mais analysant, la philosophie peut très bien aussi avoir des lois. Il n'y a pas beaucoup de lois. Il y a quand même quelques lois. Vous pouvez me poser la question, est-ce qu'il y a des lois en métaphysique ? Je crois qu'il y a des lois métaphysiques. Quand vous énoncez le principe de causalité, vous énoncez la loi de la causalité. Oui. Quand vous énoncez le principe de finalité, tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. C'est une loi qui est extraite directement de la cause. Parce que je dis qu'il y avait peut-être un, entre le fond qui disait assez, le tapé un petit peu avant, vous allez vous payer quelque chose pour vous allez taper plus vite. Chapitre 5. Alors voilà, maintenant nous sommes à pied d'œuvre. Oui.
Acte premier, acte second, pour comprendre la différence entre loi et principe.
Et oui, parce que dès que je suis, c'est sûr, c'est le philosophe fait ça. Oui, le principe est toujours un acte premier. L'acte second, c'est l'exercice.
Mais alors, Aristote, lui, il semble bloquer les deux quand il dit que les choses légères et lourdes se meuvent en vertu de la cause génératrice.
Ah, cause génératrice.
Ben oui.
Hein, la cause génératrice. Mais non, la cause génératrice. C'est la cause génératrice de cette réalité qui est le léger. Vous voyez ? Donc, qui est l'exercice. Cause seconde. C'est pas le principe.
Mais ce qu'il dit, la cause génératrice de leur légèreté.
Je sais pas si oui, de leur légèreté. Dès que leur légèreté, c'est le principe. Le léger comme léger, c'est ce par quoi le léger est léger. Tandis que la cause génératrice, c'est une réalité, c'est un quad. C'est un pos. Les lois sont descriptives. Puisque les lois sont descriptives, elles regardent toujours des réalités existantes. Qu'on les saisisse au bout du microscope électronique ou qu'on les touche, c'est la même chose. Si ce n'est que le microscope électronique a abstrait pour aller plus loin. Puisque le microscope électronique a grossi ce qui était capable d'être grossi. Qu'est-ce qui est capable d'être grossi ? La quantité. Et seule la quantité peut être grossie. Et c'est exact, c'est la quantité qui est grossie. Vous ne pouvez pas grossir la qualité. Elle est indivisible. Mais vous décrivez toujours. Toute loi énonce un rapport de deux réalités existantes. Et vous saisissez un rapport que telle réalité ne peut exister que si l'autre existe. Raison sine qua non, causalité formelle, causalité efficiente, causalité finale. Tout y est. Vous voyez ? C'est ça que je veux montrer.
Oui. Alors la cause génératrice de la légèreté de l'air, c'est quoi ?
La cause génératrice de la légèreté de l'air. c'est un être léger.
Je comprends pas comment. Qu'est-ce que c'est que cette, la place de la pause efficiente dans ce mouvement ?
Dans ce mouvement générateur. Venez, n'existe que des réalités complexes. Oui. N'existent pas les éléments. Oui. Mais les éléments existent pendant. Donc ils dépendent d'autre chose. Vous voyez ? Ils dépendent d'un être antérieur. Mais eux, comme éléments, n'existent pas. Ils existent dans ma pensée. Ils ont un fondement dans la réalité. Tandis que ce qui existe, c'est ce qui engendre la légèreté. Oui. Le feu, il existe dans la réalité physique. Mais le feu, en moi, elle n'est pas du feu. Il, ça reste du feu. Et comme élément, non. Parce que c'est un mixte. Et c'est au fond ça qui fait toujours la difficulté, c'est que on passe de la description à la recherche du principe sans crier gare. Oui. Ça demande une très grande familiarité avec la pensée d'Aristote pour ça. C'est-à-dire le tiesti, le principe et le pose. Alors ici, c'est ça qui m'intéresse ici. Vous voyez, c'est qu'on est en présence des deux. Et que c'est très rare qu'Aristote explique ça. Mais en philosophie du vivant, c'est expliqué, mais c'est beaucoup plus facile. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est au niveau physique. Et au niveau physique, la légèreté, c'est une qualité ou est-ce que c'est une nature ? C'est la qualité naturelle de l'air. Mais l'air, il est léger. Il a la légèreté. Bon, cette légèreté va s'exercer, s'il n'y a pas d'obstacle, par une attraction ou par la causalité efficiente. Mais...
On peut la déterminer, cette causalité efficiente ?
Elle est déficiente, déterminée. Elle est dans une réalité antérieure à cette réalité qui est légère. On ne peut pas dire plus. Si on connaît très mal la nature, très très mal, on s'en aperçoit du reste tous les jours. Bon, alors, chapitre 5. Nécessité du premier moteur. De nouveau, vous voyez, après avoir vu tout ça, maintenant nous allons montrer l'argument qui nous montre qu'on est obligé de sortir du monde du mouvement. Or, cela s'entend de deux façons. Ou bien, le moteur ne meut pas par son propre moyen, mais par le moyen d'une autre chose, qui est le moteur. Ou bien il meut par lui-même, et alors il est ou immédiatement, après le terme extrême, ou séparé de lui par plusieurs intermédiaires, tel le bâton qui meut la pierre, ému par la main, laquelle est émue par l'homme, mais celui-ci meut sans être à son tour mu. On voit très bien les intermédiaires. Certes, nous disons que tous les deux meuvent, et le dernier, le bâton, aussi bien que le premier, l'homme. Mais c'est principalement le premier, car celui-ci meut et le dernier, parce que celui-ci meut le dernier, tandis que le dernier ne meut point le premier. Comment il y a un serpent qui meurt sa queue, etc. quand le serpent mord sa corne, c'est pas si la queue est avant la morsure ou la morsure avant. Voilà que. Vous pouvez pas le savoir. Mais c'est principalement le premier, c'est-à-dire l'homme, car celui-ci meut le dernier, le bâton, tandis que le dernier ne meut pas le premier. C'est-à-dire que sans celui-ci, le dernier ne peut mouvoir, tandis que le premier le peut sans l'autre. Aussi, le bâton ne mouvra pas si l'homme ne meut pas. Ça, c'est très facile à comprendre. Hein. Si donc, tout mu est nécessairement mu par quelque chose, et ou bien est mu par autre chose, ou bien non. On reviendra là-dessus. Parce que c'est là où commence ce raisonnement, par mode hypothétique.